Voilà l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5 et le verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Cette semaine, j'ai été interpellé par cette expression, cette parole, et j'espère que c'est le Seigneur qui m'incite à l'aborder avec vous, déchus de la grâce. Il est donc possible, après avoir connu, expérimenté la grâce de Dieu, d'un être déchu. Que s'était-il donc passé dans cette épître, dans ces églises plutôt de la Galatie? Paul y avait exercé un ministère fécond, béni, des hommes, des femmes avaient été arrachés au paganisme et ils avaient accepté par la foi, reçu par la foi en Jésus-Christ, ce grand salut. Ils avaient bénéficié de la grâce. Et des églises avaient été fondées, établies solidement sur la base de la saine doctrine. Et puis, après le départ de l'apôtre Paul, vous savez que Paul allait de ville en ville, prêchant l'évangile, après son départ donc, ce qu'il qualifiera de faux apôtres, de faux ouvriers, eh bien, on pénétrait ces églises de la Galatie et on commençait à y prêcher, comme dira Paul par ailleurs, un autre évangile, un autre Jésus. Tant et si bien que les chrétiens de la Galatie s'étaient laissés, tout au moins pour beaucoup d'entre eux, séduire par ce faux enseignement et désormais, ils pensaient pouvoir trouver leur justification dans la pratique des prescriptions de la loi de Moïse. Vous voyez, ils étaient revenus en arrière. Normalement, on passe de la loi à la grâce. Eux, ils étaient passés de la grâce à la loi. Prescription de la loi de Moïse, c'est-à-dire le sabbat, la circoncision et tout le reste. Et ainsi, ils avaient rejeté le fait que la grâce de Dieu, rappelons-le, c'est sa faveur imméritée que Dieu nous accorde au travers du sacrifice de Jésus. Ils avaient rejeté le fait que la grâce de Dieu, c'est l'unique source de notre salut. Je pense qu'on est d'accord. On connaît ces versets de Éphésiens chapitre 2, verset 8, où il est dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que nul ne se glorifie, car nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Ils avaient donc, ces Galates, perdu de vue la doctrine centrale de l'Évangile. Le salut nous est offert, non pas au travers d'œuvres méritoires, mais par la foi en Christ. Et le résultat de cette adhésion à cette fausse doctrine, qui consistait, je le rappelle, à vouloir trouver la justification dans la pratique des prescriptions de la loi de Moïse, le résultat, c'est que Paul leur dira, vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes séparés de Christ. Il y a des expressions synonymes qu'on trouve dans la parole de Dieu. Par exemple, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, au verset 1er, Paul dira qu'il faut veiller à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, au verset 15, il est question de veiller là aussi afin de ne pas se priver de la grâce de Dieu. Alors, être déchu de la grâce, recevoir la grâce en vain, se priver de la grâce de Dieu, c'est quoi ça? Être déchu, ça vient du verbe déchoir, qui veut dire, on le sait, tomber, perdre. Abandonner, renoncer, rejeter, rétrograder, revenir en arrière, renier. ceux qui sont déchus de la grâce de Dieu, ils en sont là. Et je vous fais remarquer que ne peuvent être déchus de la grâce que ceux qui l'ont précédemment connu, cette grâce, et qui l'ont précédemment reçue. Et dans la parole de Dieu, il y a des textes solennels à cet égard. Par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, voyez, Épître aux Hébreux, qui est une épître capitale, au chapitre 6, au verset 31, attendez voir, chapitre 6, verset 6. Il y a un autre passage que je voulais trouver. 10. Voilà, excusez-moi, c'est le chapitre 10. Et il est dit ceci, au verset 26. C'est pas chapitre 6, c'est chapitre 10, pardon. Car si nous péchons volontairement, notez l'adverbe volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », et encore « Le Seigneur jugera son peuple, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Il est question là, n'est-ce pas, de ceux qui autrefois, eh bien, auront connu le Fils de Dieu et puis qui l'auront méprisé, rejeté, tenant pour profane, sans valeur, le sang de l'Alliance, le sang de Jésus par lequel pourtant ils avaient été précédemment sanctifiés, et qui auront même outragé l'esprit de la grâce. Ils avaient reçu la grâce, mais ils en sont arrivés à un point où ils ont outragé l'esprit de la grâce. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, au verset 20, avec des termes un petit peu différents, l'apôtre Pierre, aborde cette question de la déchéance du croyant, tout au moins de celui qu'il a été précédemment. Et dit ceci, 2 Pierre 2, verset 20, « En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. » Vous voyez, ils s'étaient retirés des souillures du monde par la connaissance de Jésus, et puis ils s'y sont engagés de nouveau. Et cette fois, leur dernière condition est pire que la première. Mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Amen. Les termes qui sont employés là sont extrêmement forts. Et très évocateur. Le chien retourna ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. On sait que pour des Israélites, pour des Juifs, et l'apôtre Pierre en était un par ses origines, il n'y a rien de plus infect qu'un chien et un porc. Voyez, eh bien, il ose cette comparaison. D'ailleurs, il cite en cela un texte de l'Ancien Testament. Le chien retourna ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Donc, à la lumière de ces textes, vous voyez, nous devons veiller et ne pas nous illusionner, ne pas penser que parce que nous nous sommes convertis un jour, le salut nous est désormais assuré quel que soit notre comportement. Certes, le salut est une certitude, alléluia, qui nous est accordée en réponse à la foi. Mais non, ce salut que nous avons reçu un jour, lors de notre conversion, lors de ce moment où nous avons accepté Christ comme notre sauveur, ce salut, il s'agit d'y persévérer, mes amis, afin de conserver ce que Dieu nous a acquis en Christ, afin de le mener à bonne fin. C'est important de bien commencer, c'est encore plus important de bien continuer, et c'est tout à fait remarquable de bien terminer. L'épître aux Philippiens nous dira que nous devons travailler à notre salut. Non pas que nous nous sauvons nous-mêmes, mais nous devons y participer par notre vigilance, par notre persévérance, afin, répétons-le, de le mener à bonne fin. Afin de pouvoir effectivement, un jour entrer dans le royaume éternel, ne pas avoir connu la grâce pour s'en détourner ensuite. Je précise ceci que pour être déchu de la grâce, il ne s'agit pas là d'une faute isolée, d'une erreur passagère. Vous savez, l'Écriture dit que nous branchons tous de plusieurs manières. Hein? Depuis notre conversion, je pense qu'il vous est arrivé, ne me dites pas que c'est pas comme ça, de devoir revenir encore souvent au pied du Seigneur en lui demandant une nouvelle fois, fais-moi miséricorde, parce que dans tel ou tel moment, je me suis fourvoyé, Seigneur, pardonne-moi. Et Dieu a renouvelé sa grâce. Alléluia. Et quand nous parlons d'être déchus de la grâce, il s'agit de gens qui s'installent dans une situation flagrante de péché en y persistant et en refusant d'y porter remède. Tant qu'il y a une repentance authentique et sincère, mes amis, Dieu fait miséricorde. Autant de fois que nécessaire. Alléluia. À condition, répétons-le, que la repentance ne soit pas, comment faut dire ça, une lessive à bon marché, n'est-ce pas? Mais que ce soit quelque chose de sérieux, d'authentique, de profond, de réel. Voilà, on s'humilie devant Dieu, peut-être même on pleure sur son péché, réalisant combien nous avons été misérables. Et Dieu fait miséricorde. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Alléluia. Mais ceux qui s'installent dans une situation qui est en flagrante contradiction avec la parole de Dieu, et qui y demeure, sans vouloir y porter remède, courent le risque qu'ils atteignent ce point où ils seront déchus de la grâce. Pourtant, ils ont connu la grâce, mais ils en sont déchus. Plusieurs tristes exemples dans la parole de Dieu nous sont là pour nous confirmer la réalité de ce fait. Vous avez Caïn. La Bible dit qu'il était du malin. Non pas qu'il soit né comme ça, hein, mais il était du malin parce que il s'est engagé dans cette voie, vous le savez, de jalousie, de haine, de violence et de meurtre, dans laquelle le malin l'a poussé. Et lorsque Dieu l'a interpellé, lui disant, où est ton frère? Il n'a rien trouvé d'autre que de lui dire, mais suis-je le gardien de mon frère? Tu parles, il venait de le tuer, de l'assassiner. Et lorsque Dieu l'a sanctionné, au lieu de se repentir, de s'humilier, de dire, Seigneur, j'étais misérable, pardonne-moi, sa seule plainte fut pour gémir quant à la rigueur du châtiment. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Un cœur méchant, un cœur déchu. Vous avez le cas de Saül, le premier roi d'Israël, qui s'est enfermé dans la désobéissance. Regardez le parcours de sa vie et vous verrez que ce n'est pas une fois qu'il l'a désobéi, mais il s'est enfoncé dans une attitude de désobéissance persistante et flagrante. Si bien qu'il est dit qu'à un moment, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, et il est en arrivé au point, c'est terrible à dire, mais c'est écrit, qu'il fut agité par mon mauvais esprit. Dites. Lui qui avait été en son temps un homme de Dieu, il faut le dire à sa manière. Vous avez Salomon, entraîné par sa sensualité. Lui qui avait bâti en l'honneur de l'Éternel le temple, il est devenu un misérable, un abominable idolâtre. Et c'est dans ce triste état qu'il a fini son parcours sur cette terre déchue. Judas. L'Écriture dit que Satan entra dans Judas. Vous savez que Satan n'entre pas n'importe comment. N'ayez pas peur qu'à la sortie du culte, là, il s'immisce dans votre vie contre votre gré. Non, non, pour qu'il entre, il faut qu'il y ait une porte ouverte. Et la porte ouverte, en l'occurrence, pour Judas, ce fut sa cupidité. Ça a été la porte d'entrée. L'Écriture dit, ne laissez pas accès au diable. Et lui, il a laissé accès, il a ouvert tout le monde la porte au travers de sa cupidité. Et vous savez comment ça s'est fini? Il s'est pendu, déchu, déchu de la grâce. Certainement, il y a d'autres exemples que l'on pourrait évoquer. Alors, voyez, l'Écriture dit que tout ça, cette espèce de cimetière spirituel à l'égard de ces personnages, tout ça a été écrit pour notre instruction. Pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, afin que nous ne tombions pas en donnant le même exemple de désobéissance. Pour ne pas en arriver là, pour ne pas être déchu de la grâce, qu'est-ce qu'il faut? Il faut poursuivre la sainteté. Dieu parle aujourd'hui encore de sainteté à son peuple. Ça n'est pas une valeur périmée, ça n'est pas une notion qui serait vieux jeu, dépassé. Aujourd'hui, frère, on n'en est pas là. Aujourd'hui, il faut de l'euphorie, il faut de l'exubérance, il faut des manifestations particulières pour exciter notre vie émotionnelle et spirituellement. L'Écriture dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et l'Épître aux Hébreux ajoute « rechercher ». Sous-entendu activement, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous savez, on insiste, certainement à juste titre, beaucoup sur l'amour de Dieu. Dieu est amour, amen. Vous le croyez, moi aussi, et la Bible tout entière est là pour nous l'affirmer. Dieu est un Dieu d'amour. Et si nous sommes là ce matin, c'est le résultat de son amour, et c'est tout. Hein. Pas parce que nous sommes, ni vous ni moi, des gens extraordinaires, trié sur le volet, remarquable et différent des autres. Non, sans l'amour de Dieu, mais on n'est rien du tout. Et si Dieu est amour, certes, nous ne devons pas mettre en oubli, par ailleurs, les exigences de sainteté et de justice que nous présente le Seigneur. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, au verset 14, l'apôtre Pierre se référera à cette parole qui revient souvent dans le livre du Lévitique, si vous l'avez lu, où il est écrit, c'est Dieu qui le dit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Et voici ce qu'il dit, Pierre, premier épître de Pierre, chapitre 1er, verset 14, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Telle est la volonté du Seigneur pour notre vie. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? La sainteté, ça n'est pas l'austérité absolue, la rigueur, hein? Ça n'est pas être sévère comme et raide comme un passe-lacet. C'est pas ça la sainteté. Être saint, ça veut dire mis à part. Ça veut dire séparé. Et le chrétien doit se séparer du mal et il doit se mettre à part, se consacrer pour Dieu. Voilà, mes amis, quelle est la volonté du Seigneur à notre égard. Voilà quel est le but que Dieu fixe pour nous. Oui, à la liberté, alléluia, la liberté glorieuse des enfants de Dieu, comme dit l'Écriture. Mais la parole dit que la liberté ne doit pas être un prétexte pour vivre selon la chair, pour s'adonner à ses impulsions, à ses instincts les plus bas parfois, et aux mauvais sentiments qui peuvent parfois venir dans nos cœurs. L'Écriture dit tout est permis. Vous avez lu ça ? Formidable, tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Elle dit encore tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et elle dit aussi tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Voyez ? Notre liberté, et la liberté, c'est ce à quoi Christ a appelé, c'est racheté, n'est-ce pas ? Elle est limitée cependant par les injonctions de la parole de Dieu. Être libre, ça n'est pas faire n'importe quoi, mais c'est rester dans la droite ligne, dans le cadre de la parole de Dieu. Je le disais il y a un instant, je le répète, Dieu parle encore de sainteté à son peuple. Dans le livre du prophète Ézéchiel, dans les derniers chapitres notamment, eh bien, le prophète reçoit en vision la vision du temple, du nouveau temple. Alors, on peut donner toutes sortes d'affirmations, d'interprétations à cette vision prophétique, mais on peut voir aussi dans la vision du temple de Dieu, du nouveau temple, l'image, le symbole de l'Église. Après tout, aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est nous, n'est-ce pas ? La maison de Dieu, c'est nous, non pas les quatre murs dans lesquels nous nous trouvons, mais nous-mêmes, peuple du Seigneur. Et il y a un texte qui dit que tout l'espace occupé par le temple devait être très saint. Et les deux termes qui sont importants dans le verset que je viens de citer, c'est tout l'espace et très saint. Vous voyez, tous les domaines de notre vie doivent participer à la sainteté. Que ce soit notre vie morale, affective, sentimentale, familiale, professionnelle, dans l'Église, dans le monde, dans la société, tout ce qui concerne notre vie doit être placé sous le sceau de la sainteté. Pour ne pas être déchu de la grâce, il faut poursuivre la sainteté, il faut conserver la crainte de Dieu. Le psalmiste dira, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Qu'est-ce que c'est ça, la crainte de Dieu ? Nous usons d'une grande liberté et nous pouvons en Jésus-Christ nous approcher du trône de la grâce, nous dit l'Écriture, et être favorablement accueillis parce que Christ est notre souverain sacrificateur dans le lieu céleste, parce qu'il est notre avocat auprès du Père. Mais ce fait n'exclut pas que nous devons maintenir dans notre cœur la crainte de Dieu, la crainte de l'offenser, la crainte d'affliger son cœur de père par un comportement qu'il ne pourrait pas agréer. Il nous faut savoir, et ça fait aussi partie de la crainte de Dieu, que Dieu est en droit de nous corriger comme il le juge bon quand nous avons dépassé la mesure. Le psalmiste dira, c'est par fidélité que tu m'as humilié. Avant d'avoir été humilié, dira-t-il, je m'égarais, mais maintenant j'observe ta parole. Certainement, vous avez fait cette expérience. D'une manière ou d'une autre, tel ou tel jour, dans telle et telle circonstance, Dieu vous a corrigé. Peut-être un événement fâcheux s'est-il produit et vous avez réalisé que vous étiez en train de subir les conséquences de votre inconséquence. Je l'ai vécu, je l'ai expérimenté et en cela Dieu nous a corrigés pour que nous ne nous égarions pas, mais que nous maintenions la crainte de Dieu dans notre cœur. La crainte de Dieu, c'est un garde-fou, c'est une protection contre la tentation, contre les ruses du diable, contre ses tentatives de séduction, contre les influences néfastes que nous subissons. La crainte de Dieu, c'est alors que peut-être tu es sur le point de fléchir, sur le point de faillir à ton engagement chrétien, quelque chose en toi te dit non, il ne faut pas, tu ne dois pas, parce que tu es un enfant de Dieu. Et ainsi, par la crainte de Dieu qui est dans ton cœur, tu es gardé, tu es protégé. Vous voyez, Joseph en Égypte, hein, quand il fut l'objet de cette tentative de séduction de la part de la femme de son maître qui lui faisait de mauvaises propositions, personne ne l'aurait su, personne ne l'aurait vu. Après tout, c'était un jeune homme, il faut que jeunesse se passe. Après tout, il était loin de sa famille. Après tout, il n'était pas dans un cadre idéal, il était esclave. Mais la crainte de Dieu était dans son cœur. Il dira, comment ferais-je un aussi grand mal? Comment pécherais-je contre Dieu? Alors, il s'est abstenu. Il s'est abstenu parce qu'il avait la crainte de Dieu. Pour ne pas être déchu, il faut tenir compte aussi des avertissements et des mises en garde de la parole de Dieu. Se laisser reprendre, interpeller par elle, ne pas la mettre en oubli. Vous savez, ce qui est vrai lors du culte du dimanche matin, c'est encore vrai lundi matin. Vous comprenez ce que je veux dire? Parfois, on pourrait dire, mais ça c'est l'Église. Ça, c'est un temps consacré. Après, il y a la vraie vie. Mais il ne doit pas y avoir divorce entre ce que nous appelons en quelque sorte la vraie vie et puis notre vie à l'Église. Non, non. J'aime ce qui est dit à propos de Marie, la mère de Christ. Elle repassait ces choses dans son cœur. Elle repassait ces choses dans son cœur. Ça n'était pas une auditrice oublieuse. Ce que Dieu avait dit, elle l'avait capté, elle l'avait reçu, et elle le repassait, elle le méditait dans son cœur pour en nourrir son âme. La parole de Dieu, eh bien, c'est une protection aussi contre les séductions de l'adversaire. Ne soyez pas, frères et sœurs, de ceux qui cherchent, comment il faut dire ça, l'apôtre le dit, des choses agréables à entendre, qui se tournent vers les fables. Et aujourd'hui, dans le monde évangélique, il y a des fables. Il y a des gens qui affabulent. Il y a des gens qui vous racontent monts et merveilles, et puis lorsque vous vérifiez dans les faits, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien du tout. Mes amis, attachez-vous à la vraie parole, telle qu'elle est enseignée. Peut-être cette parole parfois est rude pour notre chair. Nous aimerions entendre quelque chose qui nous caresse un petit peu davantage dans le sang du poivre. Vous savez, les auditeurs de Jésus ont bien certains jours. Oh, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Elle est dure parfois. Elle est sévère, la parole de Dieu. Mais elle est salutaire. Elle est salutaire. Et il faut savoir la garder dans son cœur. Et puis, pour ne pas être déchu de la grâce, il faut aussi laisser le Saint-Esprit avoir accès à notre cœur. Accès à notre cœur. La parole de Dieu dit qu'il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Étienne dira à ses accusateurs qui vont le lapider, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. On peut attrister le Saint-Esprit. On peut s'opposer au Saint-Esprit. On peut, dit d'autres textes, éteindre le Saint-Esprit. Et même, nous l'avons lu tout à l'heure, on peut outrager le Saint-Esprit. Qu'il n'en soit pas ainsi, mais que le Saint-Esprit puisse toujours se frayer un passage jusqu'à notre cœur. Vous savez, ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit venant sur Jésus est apparu sous la forme d'une colombe. Une colombe, c'est facilement effarouchable. C'est pas un vautour, une colombe. C'est pas un aigle. C'est pas un rapace, voyez. Non, ça parle de douceur. Ça parle aussi, eh bien, justement, d'être effarouchable. Et lorsque nous avons vis-à-vis du Saint-Esprit une attitude qui n'est pas correcte, il est effarouché, il est affligé, il est attristé. Et si nous persistons, n'est-ce pas, à l'attrister, à l'affliger, eh bien, il se retirera. Et alors, malheur à nous. Je suis convaincu qu'il existe un point de non-retour. Je veux dire un point où le cœur peut être tellement endurci que la repentance est impossible. Écoutez ça. À propos de Pharaon, si vous avez lu les textes, il est dit que Pharaon endurcit son cœur. Vous avez noté ça? Mais tout à coup, eh bien, l'expression est différente. Et après que Pharaon ait endurci personnellement son cœur à plusieurs reprises, il est dit que maintenant Dieu endurcit son cœur. Il avait atteint le point de non-retour. Et pour lui, la repentance n'était plus possible. L'Écriture parle de ceux qui ont fait naufrage. L'expression est terrible par rapport à la foi parce qu'ils ont perdu leur bonne conscience. Ce que Dieu, mon frère, ma sœur, mon ami, encore accès à ta conscience? Est-ce qu'il arrive encore qu'il y ait des moments où ta conscience soit travaillée par la parole, travaillée par l'esprit? Oh, béni sois-tu Seigneur s'il en est encore là. Si la conscience ne vous fait plus jamais aucun reproche, vous êtes sérieusement en danger. L'Écriture parle de ceux qui portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, voyez? Une conscience cautérisée, anesthésiée, qui est devenue totalement insensible. Le point de non-retour. Béni soit le Seigneur, parce que avant d'en arriver là, quand même, je vais vous rassurer, il faut avoir persisté longuement et délibérément dans le rejet des appels que Dieu nous adresse, dans le mépris même des mesures de correction que Dieu peut employer pour nous ramener à la raison. Hormis ces cas extrêmes que je viens de signaler, la bonne nouvelle, c'est que quand on est tombé, il est possible de se relever par la grâce. Quand on s'est éloigné, il est possible de revenir. Mais il ne faut pas dire « Je reviendrai le jour !» Je me relèverai dans un autre moment. Pour le moment, bien, on laisse les choses comme ça. Non, ça c'est jouer avec le feu. Et si je puis dire, le jeu de mots est facile avec le feu de l'enfer. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Alors, voyez, je voudrais terminer ces moments. Peut-être vous jugerez cette prédication sévère. Peut-être me direz-vous, frère, on en a pris plein la tête. Pendant la semaine, ça a été dur avec les collègues, avec le patron, avec ceci, avec cela, avec le reste. Et j'aurais aimé ce matin quelque chose qui m'encourage. Il y a des moments où la parole de Dieu, j'espère, apporte l'encouragement. Mais il faut aussi qu'il y ait des moments où la parole nous reprenne. Peut-être, jugerez vous même cette prédication troublante. Peut-être que certains qui sont un petit peu fragiles, instables quant à leurs convictions, se diraient, mais je ne sais plus où j'en suis, moi, rassurez-vous. Le Seigneur ne joue pas au yo-yo avec votre salut. C'est pas un coup tu l'as, un coup tu l'as pas, un coup tu l'as à nouveau. Non. Mais ça peut être salutaire pour certains qui vivraient dans l'illusion et dans une fausse sécurité. Paul dira dans l'une de ses épîtres, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Et la foi, là, ce n'est pas simplement une émotion religieuse, une petite confiance du cœur, parce qu'on dit le Seigneur m'aime, alors tout ira bien. Non, la foi, c'est cet engagement et cet attachement profond, durable, définitif, authentique envers la personne du Seigneur. Est-ce que j'en suis encore là? Est-ce que j'en suis encore là? Ou alors, est-ce que ma foi a sérieusement vacillé? Est-ce que plutôt que d'être sur le chemin, je suis au bord du chemin? Seigneur, si c'est le cas, il faut que je m'empresse d'y revenir dans le chemin. Même s'il n'est pas toujours facile, ce chemin, parce que Jésus a dit qu'il était étroit, resserré, mais qu'il menait à la vie éternelle. Je ne sais pas comment vous êtes, je sais comment je suis. J'ai vraiment envie d'aller au ciel, vous savez. J'ai vraiment envie de bien terminer ma course. Et je ne fais pas d'illusions. Je me dis, pas mon gars, tu n'as pas de souci à te faire. Puisque tu es pasteur, tu risques rien. Non, Paul lui-même dira qu'il traite durement son corps. Il le tient assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Tous, vous et moi, quelle que soit notre fonction, notre service, notre ministère, on est tous au même niveau. Examinons-nous nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Dans l'Épître aux Corinthiens, quand il parle justement de la Sainte Cène, nous allons y participer, Paul dira ceci, que chacun s'éprouve soi-même. Que chacun s'éprouve soi-même. Qu'il teste, qu'il vérifie la réalité, l'authenticité de son engagement envers le Seigneur pour voir s'il est encore vraiment dans le coup. Et si ce n'est pas le cas, si peut-être quelqu'un est déchu de la grâce, ce matin le Seigneur veut te tendre la main, te pardonner, te faire miséricorde. Mes amis, s'il y a un ciel à rejoindre et un enfer à éviter, vous croyez à ça? Vous y croyez au ciel? Vous y croyez à l'enfer? Alors, si c'est vrai ça, si c'est pas du bluff, si on n'est pas des mystificateurs, des rêveurs, si c'est pas notre imagination qui travaille, si c'est vrai qu'il y a un ciel à rejoindre un jour, un enfer à éviter, le bon sens consiste pour nous à nous interroger sur nous-mêmes et si besoin est, à se repentir, à s'humilier et à revenir au Seigneur afin de ne pas être déchu de la grâce comme l'étaient ces pauvres gens de la Galatie. Écoutez, ce sera deux derniers textes que je mentionnerai, ce que l'apôtre Jacques dit dans son épître au chapitre 4, au verset 6, il dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Avec Dieu, nous le savons, l'humilité précède la gloire, tandis que l'orgueil précède la chute. Si nous nous abaissons, Dieu nous élèvera. Au contraire, si nous nous élevons, eh bien Dieu sera contraint de nous abaisser. Et puis, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 55 et au verset 6, voici ce que dit le prophète. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. » Et l'homme d'iniquité s'est pensé qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Il ne s'agit pas de se contenter d'une confession à l'eau de rose, simplement destinée à nous soulager un petit peu, hein. Seigneur, pardonne-moi. Ah, ça ira mieux après. Non. Mais le texte dit que le méchant, le pécheur, abandonne sa voie. Il y a parfois des choses à régler, il y a parfois des choses à mettre en ordre, il y a parfois, n'est-ce pas, des choses auxquelles il faut renoncer, il faut faire le tri. C'est ça la repentance, c'est pas la simple confession. C'est dire, Seigneur, avec ta grâce, je prends la résolution que dans tel et tel domaine, les choses changent. Qu'elle soit remise d'aplomb, en accord avec ta parole. Alors, dit le texte, Dieu aura pitié, parce qu'il ne se lasse pas de pardonner. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père,